Monsieur François, souvenir de 1848. J'ai passé à Paris tout l'hiver de 1847 à 1848. Mon appartement était situé non loin du Palais Royal et j'y allais presque chaque matin pour prendre du café et lire les journaux. À cette époque, le Palais Royal n'était pas encore l'endroit presque abandonné qu'il est devenu, bien que les jours de sa gloire fussent depuis longtemps passés. Cette gloire toute spéciale qui faisait dire à nos vétérans russes de 1814 et 1815, chaque fois qu'ils rencontraient un voyageur qui venait de Paris, « Et que fait notre bon cher Palais Royal ?» Un jour, c'était au commencement de janvier 1848, j'étais assis à l'une des petites tables disposées autour du café de la Rotonde. Un homme de haute taille, sec et maigre, aux cheveux noirs et grisonnants, portant sur son nez aquilin des lunettes en fer rouillé et à verre de fumée, sortit du café, jeta un regard autour de lui, et s'étant assuré que toutes les tables étaient occupées, me demanda la permission de s'asseoir à la mienne. J'y consentis. L'homme aux lunettes se laissa tomber sur un siège, repoussa vers la nuque son vieux chapeau à haute forme, et croisant ses deux mains osseuses sur un gros bâton noueux, demanda une tasse de café. Quant au journal que lui offrait en même temps le garçon, il le refusa avec un haussement d'épaule. Nous échangeâmes quelques paroles insignifiantes. Je me rappelle qu'il grommelait entre ses dents « Ton maudit chien de temps !» Puis il avala brusquement sa tasse et partit. L'impression qu'il m'avait laissée ne disparut pas aussi vite. C'était évidemment un Français du Midi, gascon provençal. Sa figure hâlée, labourée de rides, ses joues creuses, sa bouche édentée, sa voix sourde et croassante, tout jusqu'à son habit sali, fripé, qui ne semblait pas fait pour lui, annonçait une vie inquiète, errante et besogneuse. Un homme cassé, battu, roulé par l'orage, pensais-je. Ce n'est pas seulement d'aujourd'hui qu'il est dans la gêne. Oh, il a dû passer toute sa vie par l'étroitesse et la misère. D'où lui vient cette expression, moitié consciente, moitié involontaire, de supériorité qui se lit sur son visage, dans chacune de ses gestes et jusque dans sa démarche affaissée et traînante. Les pauvres, les humbles ne marchent pas ainsi. Ses yeux surtout m'avaient frappé, avec leurs pupilles d'un brun sombre entouré d'un blanc jaunâtre. Tantôt il les tenait tout grands ouverts, en fixant devant lui un regard immobile et morne. Tantôt il les plissait d'une étrange façon, en soulevant ses sourcils ébouriffés, et en jetant des regards obliques par-dessus les bords de ses lunettes. Alors une moquerie amère et méchante se propageait sur tous ses traits. Dirais-je ne pas m'occuper beaucoup de lui ce jour-là. L'attente des banquets réformistes agitait tout Paris. Je me mis à lire les journaux. Le lendemain, je retournai au Palais Royal et de nouveau je rencontrai le monsieur de la veille. Il me salua le premier, comme une personne de connaissance, avec un léger sourire. Et sans me demander permission, s'assit près de moi, comme si sa rencontre ne pouvait me causer aucun désagrément, et bien que les autres tables fussent libres. Et tout de suite, la conversation s'engagea. « Vous êtes étranger, russe, » me dit-il brusquement, tout en remuant avec lenteur la cuillère dans sa tasse. « Oh, que je sois étranger, lui dis-je, vous avez pu le reconnaître, à ma prononciation, mais à quoi avez-vous deviné que je suis russe ?»« À quoi ? Vous venez de dire pardon d'une voix traînante. Il n'y a que les Russes qui chantent comme cela. Dirais-je, je savais que vous êtes russe. » J'allais lui demander de s'expliquer mieux, mais il avait repris la parole. « Vous avez bien fait de venir ici précisément à cette époque. C'est un temps intéressant pour les touristes. » Vous allez voir de grandes choses. Quoi donc ? Ben voici, nous sommes au commencement de février. Tant qu'ils se feront avant qu'il se passe un mois, la France sera en République. En République ? Oui, en République, mais attendez pour vous réjouir, si toutefois la nouvelle vous réjouit. Avant la fin de l'année, les Bonaparte posséderont, il se servit d'un mot cynique, cette même France. Tant qu'il ne fit que nommer la République, je n'en crus rien, et me contentais de dire, à part moi, « Ah, voilà un qui veut me faire poser et qui me prend pour un site ignorant. » Mais les Bonaparte, où diable prenaient-ils les Bonaparte ? À ce moment du règne de Louis-Philippe, qui pensait aux Bonaparte, ou du moins qui en parlait, ne serais-je pas tombé sur un mystificateur ou sur un des chevaliers d'industrie qui hante les cafés et les hôtels à l'affût des étrangers, à qui finalement il demande à emprunter de l'argent ? Et pourtant, ses manières dégagées, le ton d'insouciance avec lequel il débitait ses paradoxes, non, ce n'était pas un emprunteur d'argent. « Ah, vous supposez donc que le roi ne consentira aucune réforme ?» demandai-je après un court silence. « Cependant, les exigences de l'opposition ne semblent pas exagérées. »« Connu, connu, » dit-il avec négligence. « L'extension du droit électoral, l'adjonction des capacités, des mots, des mots. »« Il n'y a pas de banquet, le roi ne cédera pas, Guizot ne voudra pas. » Du reste, ajouta-t-il en remarquant sans doute l'impression peu favorable qu'il produisait sur moi, « Au diable politique ! L'affaire, c'est amusant, mais regardez comment la font les autres, c'est bête. Les petits chiens font de même quand les grands jouissent de la vie. Il ne reste aux petits chiens qu'à japper ou à geindre. Allez, parlons d'autre chose. » Et je ne me rappelle plus sur quoi s'était engagée la conversation. « Vous allez sans doute au théâtre, » me dit-il avec une brusquerie que j'avais déjà remarquée, et qui faisait supposer qu'il ne prêtait pas grande attention à ce qu'on lui disait. « Car vous tous, messieurs les Russes, vous en êtes grands amateurs. »« Oui, j'y vais quelquefois. »« Et vous êtes enchanté de vos acteurs, je suppose. »« Oui, de quelques-uns, surtout à la Comédie-Française. » « Le bon goût, » reprit-il d'une voix posée. « Le bon goût, voilà ce qui perd nos auteurs. Ces traditions, ces conservatoires, malheur, ils sont tous gelés et vidés comme ces poissons qu'on voit chez vous en hiver sur les marchés. Aucun de nos acteurs n'oserait dire « Je vous aime » sans écarter les jambes en compas, tout en tournant l'œil d'un air langoureux et béat. Et cela grâce au bon goût. On ne peut voir de vrais acteurs qu'en Italie. Lorsque j'habitais l'Italie... À propos, que dites-vous de cette constitution que le roi Bomba vient d'octroyer à ses fidèles sujets? Il ne leur pardonnera pas de sitôt cette grâce. Ah, mais non. Eh bien, quand j'étais à Naples, il y avait là, au théâtre populaire, des gaillards. Ah, diable! Mais tout Italien est acteur. Chez eux, c'est dans la nature. Et nous, nous ne faisons que courir après le naturel. Nos meilleurs comiques du Palais Royal ne sauraient se comparer aux premiers venus des prédicateurs de la rue. « Per le santissimo alto del purgatorio !» fit-il tout à coup d'une voix nasillarde et chantonnante, et autant que je pouvais en juger, avec le plus pur accent napolitain. Je me mis à rire, et lui se mit à rire également, sans bruit, en ouvrant largement la bouche et en me regardant par-dessus ses lunettes. « Pourtant, Rachel, commençai-je. Rachel, oui, c'est une force. C'est la force et la fleur de cette juiverie qui s'est emparée déjà des poches du monde entier et qui s'emparera bientôt du reste. Car qui a la poche et la femme et qui fait la femme à l'homme ?» « Oui, Rachel, c'est comme Meyerbeer, qui nous taquine et nous menace toujours avec son prophète. Je vais vous le donner. Non, je ne vous le donnerai pas. C'est un habile homme, un hébreu, un maestro. Pas dans le sens musical, par exemple, Du reste, Rachel aussi s'est gâtée dans ces derniers temps. Et la faute en est à vous, messieurs les étrangers. Il y a en Italie une actrice nommée Ristori. On dit qu'elle vient d'épouser un marquis quelconque et qu'elle abandonne la scène. C'est dommage, elle est bonne, celle-là, bien qu'un peu grimacière. Est-ce que vous avez longtemps habité l'Italie ? Lui demandai-je. Oui, là aussi j'ai roulé ma bosse. Où n'ai-je pas été ? En Russie même, à ce qu'il paraît. Vous aimez aussi la musique ? Demanda-t-il sans répondre à ma question. Vous allez à l'opéra ? Oui, j'aime la musique. Ah, vous l'aimez, c'était à prévoir. Vous êtes slave, et tous les slaves sont mélomanes. Eh bien, c'est le dernier des arts, mon bon monsieur. Quand la musique n'agit pas sur l'homme, c'est ennuyeux. Et quand elle agit, c'est nuisible. Mais pourquoi nuisible ? C'est nuisible parce que c'est énervant, comme les bains trop chauds. Demandez plutôt au docteur. Et sur les autres arts, quelle est votre opinion ? Il n'y a qu'un seul art, monsieur, la sculpture. Ça, c'est froid, impassible et grandiose. Ça fait naître dans l'homme l'idée, ou l'illusion, si vous voulez, de l'immortalité et de l'éternité. Et la peinture ? La peinture, oh, il y a là trop de sang, trop de chair, trop de couleurs, trop de péchés. On vous peint des femmes nues, une statue ne l'est jamais. À quoi bon allumer le sang de l'homme ? Il n'en est pas besoin. Tous les hommes sont coupables, criminels, pourris de péché, des pieds à la tête. Tous, sans exception, et tous pourris ? Tous, vous, moi-même, ce vieux garçon à figure bonasse, qui achète une poupée pour en faire cadeau à quelque enfant d'autrui, ou peut-être au sien. Tous sont coupables. Il y a de la cour d'assises dans la vie de chacun, et nul n'a le droit de prétendre qu'il n'y a pas de place pour lui sur ce vilain petit banc des accusés. Vous devez le savoir mieux que personne, fis-je involontairement. Parfaitement, monsieur, mieux que personne. Experto credi, au lieu de crédé, Roberto. Et sur la littérature, quelle est votre opinion, dis-je en continuant mon interrogatoire. Si tu veux me mystifier, pensais-je à part moi, pourquoi ne me serait-il pas permis de te mystifier à mon tour, toi qui fais des fautes dans une citation latine que personne ne demandait. L'inconnu sourit froidement, comme s'il eût compris ma pensée. « Oh, la littérature n'est pas un art, » dit-il avec insouciance. « La littérature, avant tout, doit amuser, et il n'y a que la littérature biographique qui abuse. »« Ah, vous êtes donc grand amateur de biographie ?»« Non, non, vous ne m'avez pas compris. Je veux dire ces ouvrages où l'auteur parle de lui-même, où il se livre au jugement du lecteur, c'est-à-dire à sa risée. » C'est la seule chose que les écrivains peuvent savoir, et encore. Voilà pourquoi le plus grand écrivain est Montaigne, c'est le seul. Il passe pour un grand égoïste, hasardai-je. Oui, mais c'est là sa force. Il a eu seul assez de hardiesse pour se montrer égoïste, et un objet de risée jusqu'au bout. Voilà pourquoi il m'amuse. Je lis une page, j'en lis une autre, et je me moque de lui. Il me moque encore plus de moi-même. Et basta. Et les poètes ? Oh, les poètes s'occupent de musique, de la musique, des paroles. Vous savez mon opinion sur la musique. Alors que faut-il donc lire et que doit lire le peuple ? Ou bien supposez-vous que le peuple ne doit pas lire ? J'avais remarqué au doigt de l'inconnu une bague armoriée, et malgré son apparence misérable, il me semblait qu'il devait professer des opinions aristocratiques. Et que peut-être il appartenait lui-même à l'aristocratie. Il reprit. Le peuple doit lire, mais à quoi qu'il lise, c'est absolument indifférent. On prétend que vos paysans russes lisent toujours un seul et même livre. C'est Francine le Vénitien, pensais-je en moi-même. Après avoir usé un exemplaire jusqu'au papier, ils en achètent un autre, et ils font très bien. Ça leur donne de l'importance à leurs yeux et les empêche de réfléchir. Quant à celui qui va à l'église, il n'a pas besoin de lire, du tout. Est-ce que vous donnez une telle importance à la religion ? L'inconnu me jeta un regard par-dessus ses lunettes. « Oh, je ne crois guère en Dieu, mon bon monsieur. Mais la religion est chose importante. Être son serviteur, être prêtre, c'est peut-être la meilleure vocation. Ce sont des gaillards, les prêtres. Seuls, ils ont compris la vraie essence du pouvoir. Ordonner avec humilité, obéir avec fierté, voilà tout le secret. Ah, le pouvoir, posséder le pouvoir, mais il n'y a pas d'autre bonheur sur la terre. » Je commençais à m'habituer au bon et au saut de notre conversation, et je m'efforçais seulement de marcher au pas de mon étrange interlocuteur et de ne point rester en arrière. Quant à lui, il parlait d'un air tranquille, dégagé, comme si tous ces axiomes qu'il débitait avec tant d'assurance eussent découlé logiquement et naturellement l'un de l'autre. Et en même temps, vous sentiez fort bien qu'il lui était parfaitement indifférent que vous fussiez ou non de son avis. « Mais si vous aimez tant le pouvoir, repris-je, si vous tenez le clergé en si grande estime, pourquoi n'avez-vous pas pris cette voie? Pourquoi n'êtes-vous pas devenu prêtre ?»« Votre remarque est juste, mon cher monsieur. » Mais j'avais des visées plus hautes, ayant moi-même l'intention de fonder une religion. J'ai même fait un essai pendant mon séjour en Amérique. Du reste, je n'étais pas seul à avoir cette intention. Là-bas, on s'occupait généralement de ces choses-là. Ah, vous avez donc été aussi en Amérique? J'y ai passé 2 ans. Vous avez pu remarquer que j'en ai rapporté la mauvaise habitude de mâcher du tabac. Je ne fume pas, je ne prise pas, je chique. Oh, pardon. Et il se retourna pour cracher. Mais ben, pour revenir à notre affaire, j'avais donné le projet de fonder une religion. Et j'avais même trouvé une fort jolie petite légende. Et pour qu'on l'acceptât, il fallait être martyr. À défaut de ce ciment-là, les fondations ne sont pas solides. C'est pas comme à la guerre, où il est beaucoup plus utile de verser le sang d'autrui. Mais verser le sien propre, serviteur. Alors je lâchais l'affaire. Il se tut un instant. « Oh, vous venez, reprit-il, de faire allusion à mon amour du pouvoir. Vous avez dit une vérité. Ainsi, moi, je suis encore persuadé que je serai roi. Comment roi ? Oui, roi, oui, de quelque île inhabitée. Mais un roi sans sujet, alors. Il s'en trouvera toujours des sujets. Vous avez en Russie un proverbe qui dit « Pourvu qu'il y ait une eau, il y aura toujours des cochons. » C'est naturel aux hommes de se soumettre. Au besoin, ils traversent l'océan pour arriver à bon île et y trouver un maître. Mais c'est sûr, ce que je vous dis là. « Mais c'est un fou, pensais-je en moi-même. Et n'est-ce point pour cette raison, dis-je à haute voix, que, selon vous, les Français se soumettront à un Bonaparte ?»« Précisément, par cette même raison, mon cher monsieur. »« Pardon, pardon, m'écriai-je, les Français ont déjà un roi, un maître. Ainsi donc ce besoin d'être soumis est satisfait. » Il hocha la tête. « Voilà, justement, reprit-il, où est le hic ? Notre roi actuel, Louis-Philippe, ne se sent pas un maître, un despote. Bref, ne parlons pas politique, préférez-vous parler philosophie ?» Il lança au loin sa chique à l'américaine. « Ah, dit-il, il vous plaît d'être ironique. Eh bien, je ne me refuse pas à parler philosophie, d'autant plus que ma philosophie est très simple. » Elle ne ressemble pas à la philosophie allemande, que je connais fort peu, il est vrai, mais que je déteste, comme tout ce qui est allemand. » Les yeux de l'inconnu s'enflammèrent. « Oui, dit-il, je les déteste, parce que je suis patriote. Et vous aussi, comme russe, vous devez les haïr. Permettez-moi, si vous ne les haïssez pas, tant pis pour vous. Ils vous en font voir de dur, attendez un peu, je les déteste, je les crains, » ajouta-t-il en baissant la voix. Et l'un de mes meilleurs souvenirs, c'est que j'ai eu la chance de leur tirer des coups de fusil à ces Allemands. Mais où cela, donc ? En Italie, j'ai pris part au... Ah, au reste, revenons dans la philosophie. J'ai l'honneur de vous faire savoir, monsieur, que toute ma philosophie consiste en ceci. Il y a deux malheurs dans la vie humaine, la naissance et la mort. Le second malheur est le moins grand, car il peut être volontaire. Et la vie humaine, c'est pas facile à dire. Remarquez aussi, monsieur, que dans la vie, il n'y a que deux bonnes choses. C'est lorsque l'homme participe à la naissance ou à la mort, c'est-à-dire à l'un de ces deux malheurs dont je viens de parler. Oui, la guerre, la chasse et l'amour, comme disaient les Espagnols. Seulement, ils ajoutent, pour un plaisir, 1000 douleurs. Bravo ! Ils ont du bon, quelquefois, ces diables d'Espagnols. Et voilà une preuve de la justesse de ma philosophie. Mais, dit-il en quittant la chaise, nous avons assez bavardé. Au revoir. Mais attendez, attendez, m'écriai-je. Voilà plus d'une heure que nous causons ensemble et je ne sais même pas encore avec qui j'ai l'honneur. C'est mon nom que vous voulez savoir? À quoi bon? Je vous ai pas demandé le vôtre. J'ai pas non plus cherché à savoir où vous demeurez. Je ne crois pas nécessaire de vous dire non plus où je demeure, moi, quel trou j'habite. Nous le rencontrons ici, c'est parfait. Ma conversation vous amuse. Il cligna de l'œil d'un air malicieux. Je vous abuse, moi. Je me sentis un peu froissé. Décidément, ce monsieur était trop sans gêne. Non, vous m'inspirez de l'intérêt, dis-je en accentuant chaque parole. Mais vous ne me plaisez guère. Mais vous ne m'inspirez point d'intérêt, mais vous me plaisez. Cela suffit, il me semble, pour des rapports tels que ceux que nous avons. Si vous le désirez, appelez-moi Monsieur François. Et vous, si vous le permettez, je vous appellerai Monsieur Ivan. Presque tous les Russes sont des Ivan. J'ai eu l'occasion de m'en apercevoir lorsque j'avais le déplaisir de vivre en qualité de précepteur chez l'un de vos généraux dans l'une de vos provinces. Qui était bête, ce général, et qu'elle était pauvre, cette province. Sur ce, bien le bonjour, Monsieur Ivan. Il tourna sur ses talons et partit. Adieu, Monsieur François, criai-je à mon tour. Quel homme est-ce, me demandai-je en regardant, regnant la maison. Quel être étrange. Se moque-t-il de moi? Est-il convaincu de ce qu'il dit? Quelles sont ses occupations? Son passé? Mais qu'est-il enfin? Un littérateur manqué, un pion de collège, un industriel ruiné, un pauvre gentillâtre, un acteur sans emploi. Et qui est-ce qui le pousse à me faire des confidences à moi? Je me posais toutes ces questions, et comme de raison, je n'y trouvais pas de réponse. Ma curiosité était excitée, et ce n'est pas sans une certaine émotion que je retournai le lendemain au Palais Royal. Cette fois-ci, j'attendis vainement mon original. Mais le jour suivant, il parut de nouveau sous l'auvent du café. « Ah, monsieur Ivan !» s'écria-t-il dès qu'il m'aperçut. « Bonjour ! Voici que le destin nous réunit encore. Comment allez-vous »« Pas mal, allez-vous, monsieur François ?»« Ça boulotte. Hier, pourtant, j'ai failli crever. Des crampes au cœur. Oh, ça sentait la mort, une vilaine odeur. » Mais c'est rien. Ah, allons nous asseoir dans le jardin. Il y a trop de monde ici. Je ne puis pas souffrir qu'on me regarde de côté ou que quelqu'un s'appuie derrière mon dos. Et puis, il fait beau temps. Nous allâmes nous asseoir dans le jardin. Je me souviens que lorsqu'il fallut payer les 2 sous de la chaise, il tira un vieux porte-monnaie tout plat qu'il fouilla longuement et qui ne comptait guère que les 2 sous. Je m'attendais à une nouvelle exposition de ces paradoxes. Au contraire, il se mit à me questionner sur certains personnages russes importants dans cette époque. Je lui répondis, mais il voulait toujours plus de détails, plus d'anecdotes biographiques. Monsieur François savait beaucoup de choses que je ne soupçonnais pas. Décidément, il y avait chez cet homme un grand fond de connaissances. Petit à petit, la causerie tourna à la politique. Il était difficile de l'éviter dans l'excitation où se trouvaient alors les esprits. M. François, négligemment, sans y attacher de l'importance, mentionna les noms de Guizot et de Thiers. En parlant du premier, il fit la remarque que la France avait vraiment du guignon. Il ne s'est trouvé, dit-il, qu'un homme ayant une volonté ferme, et c'est justement à contrepoil. Quant au second, ajouta-t-il, son rôle est fini pour longtemps. Que dites-vous, m'écriai-je, son nom, mais son rôle ne fait que commencer. Voyez les discours qu'il fait dans la chambre. D'autres hommes viendront, murmura-t-il, et tous ces discours ne sont que du bruit. Rien de plus. Voilà un monsieur dans un canot qui harangue la cataracte. Dans un instant, il va culbuter son canot et lui dedans. Du reste, ne me croyez pas, je le sais. Et j'ai fini. Quoi donc, continuai-je, vous supposez que ce serait Odilon Barrot? Ici, M. François ouvrit de grands yeux et partit d'un éclat de rire en renversant la tête. « Boum, boum, boum !» dit-il, en contrefaisant le garçon qui versait le café. « Voilà tout, votre Odilon Barrot. Donc, répliquai-je avec un peu de dépit, d'après vous, nous sommes à la veille de la République. Et ce sont les socialistes, n'est-ce pas, qui seront ces autres hommes dont vous parlez ?» M. François prit une pause un peu solennelle. Le socialisme est né chez nous, en France, mon bon monsieur. Et en France aussi il mourra, s'il n'est déjà mort. Ou bien on le tuera. Et on le tuera de deux façons. Ou bien par le ridicule, car enfin, monsieur considérant ne pourra pas toujours affirmer impunément qu'il poussera aux hommes une queue avec un œil au bout. Ou bien de cette façon, et il plaça ses deux mains comme s'il visait avec un fusil. Voltaire prétendait que les Français n'ont pas la tête épique. Moi, je vous affirmais que les Français n'ont pas la tête socialiste. Non, on n'est pas de cette opinion à l'étranger. Eh bien, messieurs les étrangers, vous prouvez pour la centième fois que vous ne vous comprenez pas. En ce moment, le socialisme exige une force créatrice. Il ira la chercher chez les Italiens, chez les Allemands, chez vous peut-être. Quant au français, c'est un inventeur. Il a presque tout inventé, mais ce n'est pas un créateur. Le français est tranchant et étroit comme une épée. Il pénètre au cœur même des choses, il invente, il trouve. Mais pour créer, il faut être large et rond. Comme les Anglais ou comme vos chers Allemands, fis-je non sans intention de moquerie. M. François ne fit nulle attention à ma taquinerie. Le socialisme, continua-t-il, c'est pas un principe français. Nos principes sont tout autres. Nous avons deux pierres angulaires. La révolution et la routine. Robespierre et M. Prudhomme, voilà nos héros. En vérité, et l'élément militaire, qu'en faites-vous? Nous ne sommes pas un peuple militaire. Cela vous étonne? Nous sommes un peuple brave, très brave. Guerrier, mais pas militaire, Dieu merci. Nous valons mieux que cela. Il mâchonna le pommeau de sa canne. Eh oui, et cependant, s'il n'y avait pas de vous autres Français, il n'y aurait pas d'Europe. Il y aurait l'Amérique. Non, car l'Amérique, c'est aussi l'Europe. Seulement au rebours. Les Américains ne possèdent aucune de ces bases sur lesquelles s'appuie l'édifice européen. Et pourtant, le résultat est le même. Au reste, tout ce qui est humain, c'est toujours la même chose. Vous rappelez-vous les paroles du sergent instructeur à ses recrues? Le tour à droite est absolument la même chose que le tour à gauche. Seulement, c'est absolument le contraire. Eh bien, l'Amérique, c'est le tour à gauche de l'Europe. Et si la France était Rome, reprit M. François, après un instant de silence, ce serait pour un Catilina le moment de se montrer. Car dans peu de temps, fort peu de temps, vous le verrez, monsieur. Les pierres, il éleva la voix, les pavés de nos rues, peut-être ici, tout près, à côté de nous, boiront encore du sang. Mais nous n'aurons pas de Catilina, ni de César. Nous aurons le même prud'homme avec le même Robespierre. À propos d'être, vous prenez mon opinion qu'il est à regretter que ce Shakespeare n'ait pas écrit un Catilina. Alors vous avez une grande opinion de Shakespeare, bien qu'il ne soit qu'un poète. Oui, c'était un homme heureusement né, non sans talent. Il savait voir à la fois le noir et le blanc, ce qui est rare. Et il ne plaidait ni pour le noir ni pour le blanc, ce qui est plus rare encore. Voilà une bonne chose qu'il a écrite, Coriolan. C'est sa meilleure pièce. Les soupçons que M. François tenait à l'aristocratie me revinrent à l'esprit. Coriolan vous plaît peut-être parce que Shakespeare y parle peu respectueusement, dédaigneusement même, de la plèbe, de la populace. Non, reprit M. François, je ne méprise pas la populace, je ne méprise pas le peuple en général. Avant de mépriser les autres, il faudrait commencer par se mépriser soi-même, ce que je ne fais que par boutade. Et lorsque j'ai faim, ajouta-t-il à voix basse, d'un air sombre. Mépriser le peuple, pourquoi ? Le peuple est comme la terre. Si je veux, je la cultive et elle me nourrit. Si je veux, je la laisse en jachère et je la foule aux pieds. Il est vrai qu'il lui arrive quelquefois de se secouer comme un caniche mouillé. Elle renverse alors tout ce que nous avions construit sur elle, tous nos châteaux de cartes. Du reste, c'est rare, ces tremblements de terre. Oh, je jetterai bien qu'à la fin des fins, elle m'engloutira, et le peuple aussi m'engloutira. Mais à cela, pas de remède. Mépriser le peuple, mais on ne méprise que ce que dans d'autres circonstances, il faudrait respecter. Ici, il faut savoir tirer parti, savoir profiter de tout. Voilà ce qui est nécessaire. Permettez-moi de vous demander, avez-vous su, vous, tirer parti et profiter ? Monsieur François poussa un soupir. Non, je ne l'ai pas su. Vraiment ? Je ne l'ai pas su, vous dis-je. Vous me regardez, vous pensez peut-être. Tu nous prédis qu'il y aura bientôt des catastrophes en France. Eh bien, voilà pour toi le moment de pêcher en eau trouble. Mais ce n'est pas en eau trouble que le brochet prend du poisson. Je ne suis pas même un brochet. Il se tourna brusquement sur sa chaise et en frappa le dossier avec son poing fermé. Non, je n'ai su profiter de rien. Sans cela, est-ce dans un état pareil que je me serais présenté devant vous ? Et d'un rapide mouvement de la main, il se désigna lui-même. Je n'aurais probablement pas fait votre connaissance, ce que j'aurais regretté, ajouta-t-il avec un sourire contraint. Et je n'aurais pas vécu dans ce misérable galetas que j'habite. Je n'aurais pas eu, chaque matin, en quittant mon grabat et en jetant un regard sur la mer des toits de Paris, l'occasion de répéter le mot de Jugurtha, « Oups, Venalis, ville à vendre ». Oui, et pourtant, si j'avais été comme cette ville, je ne serais pas dans l'état où je suis, dans cette pauvreté, dans cette misère, dans cette ignominie. Voici qui va me demander de l'argent, pensais-je. Il se tut, laissa tomber sa tête sur sa poitrine, et se mit à remuer le sable avec le bout de son bâton. Puis il poussa de nouveau un profond soupir, ôta ses lunettes, tira de sa poche de derrière un vieux mouchoir à carreaux, en fit un petit paquet et s'en frotta le front deux ou trois fois en levant le coude bien haut. « Oui, dit-il enfin d'une voix qui s'entendait à peine, la vie, c'est une triste chose. » « Oh oui, c'est une triste chose que la vie, mon bon monsieur. Une seule pensée me console, c'est que je mourrai bientôt, et sans nul doute de mort violente. Alors vous ne serez donc pas roi, allais-je lui demander, mais je me retins. « Oui, de mort violente. Regardez un peu, ça. et il approcha de moi sa main gauche, dont il tenait la paume en l'air, et sans lâcher le mouchoir, il y posa l'index de la main droite. Elles n'étaient guère propres, ni l'une ni l'autre. Vous voyez ce trait qui coupe la ligne de vie? Ah, vous croyez donc à la chiromancie? Vous voyez ce trait, répéta-t-il avec insistance. Eh bien, monsieur, sachez-le d'avance. Si jamais vous vous trouvez dans un lieu où rien ne pourrait me rappeler à votre souvenir, et si pourtant vous pensez tout à coup à moi, sachez que je ne serai plus. Ah, vous croyez donc aussi à la fatalité? Monsieur François eut un léger mouvement d'épaule. Monsieur, je suis comme Socrate, qui savait beaucoup de choses et prétendait ne rien savoir. Je ne crois à rien, et je crois à beaucoup de choses. Il n'y a que mon bonheur auquel je ne crois pas. Il baissa de nouveau la tête et laissa tomber sur son genou la main qui tenait le mouchoir, tandis que l'autre, avec les lunettes, pendait inerte à son côté. Je profitai de ce que les yeux de M. François étaient baissés et ne me troublai pas pour le considérer avec plus d'attention. Il me sembla tellement vieux et cassé. Une si grande fatigue se voyait dans la courbe de ses épaules et jusque dans la façon dont s'étaient placés ses grands pieds plats, chaussés de bottines rapiécées. Si amèrement se serraient ses lèvres, si profondément se creusaient ses joues mal rasées, si tristement s'allongeait son long cou décharné, si piteusement tombait une touffe de cheveux grisonnants sur son front sillonné de rides. Homme infortuné, digne de compassion, pensais-je en moi-même. Tu es malheureux dans tout ce que tu as entrepris, dans ta famille, dans tes affaires. Si tu as été marié, ta femme t'a trompé, t'a planté là. Si tu as des enfants, tu ne les connais point. Tu es seul, seul au monde. Une exclamation à haute voix et en russe interrompit mes réflexions. Quelqu'un m'appelait. Je me retournai et j'aperçus à deux pas de moi Alexandre Herzen, l'écrivain si connu qui alors habitait Paris. J'allais à sa rencontre. « Avec qui es-tu là ?» me dit-il en russe, sans diminuer l'éclat ordinaire de sa voix claire et haute. « Qu'est-ce que c'est que cette figure ?»« Cette figure ? Mais mon cher, c'est un espion. Tu le connais donc ? Pas le moins du monde. Mais il suffit de le regarder. » Ce sont là toutes leurs façons, toutes leurs habitudes. Mais quelle idée as-tu de défrayer avec lui? Prends garde et... Je ne répondis rien. Mais comme je savais que malgré tout son esprit, Hansen, surtout au premier abord, n'avait pas la facile connaissance des hommes, comme je me rappelais qu'à sa table hospitalière, on voyait souvent des gens de mine suspecte qui excitaient sa sympathie par deux ou trois paroles généreuses, et qui par la suite se dévoilait pour de vrais agents d'espionnage, ainsi qu'il l'a raconté lui-même dans ses mémoires, je n'attribuais pas une grande importance à son avertissement. Et l'ayant remercié de son intérêt amical, je revins à bon monsieur François. Il continuait à rester assis, la tête baissée. « Ce que je voudrais vous dire, reprit-il dès que je pris place à côté de lui, c'est que vous autres, messieurs les Russes, vous avez une mauvaise habitude. Dans la rue, devant les étrangers ou devant les Français, vous parlez en russe, à haute voix, comme si personne ne pouvait vous comprendre. C'est pour le moins imprudent. Ainsi, moi, j'ai compris tout ce que vous disait votre ami. » Je rougis involontairement. « Oh, je vous en prie, ne pensez pas. Certainement, mon ami. » « Je le connais, » interrompit M. François. « C'est un homme très spirituel, mais errare humanum est. » Décidément, M. François aimait à faire parade de son latin. « Au reste, » continua-t-il, « je ne le blâme pas. À me juger par mon extérieur, on peut supposer de moi tout ce qu'on voudra. Seulement permettez-moi une question. Si j'étais en effet ce que je suppose votre ami, quel intérêt, quel profit aurais-je à vous filer, vous ? Certes, vous avez raison. Monsieur François attachait sur moi un grand regard morne. Vous avez appris le russe quand vous étiez précepteur chez ce général, demandai-je assez mal à propos. Mais j'avais hâte d'effacer au plus vite l'impression qu'avait dû produire l'assertion un peu téméraire de Herzen. Le visage de M. François se ranima. Un sourire effleura ses lèvres, et il me donna quelques petites tapes sur le genou, comme pour me faire sentir qu'il avait deviné mon intention et qu'il m'en savait gré. Puis il remit ses lunettes et ramassa son bâton tombé par terre. « Non, dit-il, j'ai appris votre langue plus tôt, à l'époque où je roulais d'Amérique en Sibérie, après avoir traversé le Texas et la Californie, car j'y suis allé, dans votre Sibérie. Et c'est là qu'il m'en est arrivé de toutes les couleurs. Par exemple, « Oh non, je ne vous parlerai pas de la Sibérie, et par plusieurs motifs. D'abord, j'ai peur de vous offenser, de vous affliger. Palmachini Lucci, ajouta-t-il en mauvais russe, avec son petit rire sardonique. Mais écoutez plutôt ce qui m'est arrivé dans le Texas. » Monsieur François, d'une façon très circonstanciée, qui ne lui était pas habituelle, se mit à me raconter comment, errant dans le Texas pendant l'hiver, il dut chercher un abri dans un blockhouse chez un colon mexicain. Comment, s'étant éveillé la nuit, il avait aperçu son hôte assis sur son lit avec un grand couteau dégainé à la main. Comment cet homme, d'une taille énorme et d'une force de taureau, lui avait déclaré qu'il allait lui couper le cou, par cette raison que ses traits lui rappelaient ceux de son plus mortel ennemi. « Prouve-moi, disait le Mexicain, que j'ai pas raison de me passer ce caprice, de te faire saigner comme un porc, puisque je puis le faire avec impunité, et que jamais personne au monde ne saura ce que tu es devenu. Et quand même quelqu'un t'apprendrait, on ne s'aviserait pas de m'en demander compte, car personne ne s'intéresse à toi. Allons, expose tes preuves, car Dieu merci, nous avons le temps de causer. » Et moi, continua M. François, toute la nuit, jusqu'au jour, couché sous son couteau, je fus contraint de démontrer à cette brute ivre, tantôt en m'appuyant sur des textes de l'Écriture sainte, il était catholique et ça pouvait prendre sur lui, tantôt par des considérations générales, que le plaisir qu'il trouverait à ma mort ne valait pas pour lui la peine de se salir les mains. Il faudrait enterrer mon cadavre, ne fût-ce que par mesure de salubrité. C'était un embarras, etc., etc. Je fus même obligé de lui raconter des contes et de lui chanter les chansons. « Chante avec moi !» hurlait-il. « Chante la muchacha !» Et je faisais la seconde partie. Et le tranchant du couteau de cette diable de la vaja pendait à deux doigts de mon cou. Le Mexicain finit par s'endormir à mon côté, après avoir posé sa vilaine tête chevelue sur ma poitrine. Et M. François me conta toute cette histoire d'une voix lente endormie, sans se hâter. Puis, écarquillant les yeux, il se tut brusquement. « Et qu'avez-vous fait de lui, de ce Mexicain ? » demandai-je. « Mais je le privais de la possibilité de refaire une aussi sotte plaisanterie. Que voulez-vous lui dire ?» Monsieur François se passa la main sous le menton. « Je lui ôtais son couteau, c'est ce que vous auriez fait, n'est-ce pas ? » Et puis, il me jeta un regard oblique. Cette affaire réglée, je partis pour la Californie. Il m'arriva encore d'autres aventures, et toujours à cause de ces maudites-là, ajouta-t-il en désignant une femme d'un certain âge qui passait modestement vêtue. À cause de ces jupes. Oh, les femmes, ces casseuses d'ailes, ces empoisonneuses de notre meilleur sang. Bref, adieu, monsieur, il me semble que je commence à vous ennuyer. Il ne me plaît pas d'ennuyer qui que ce soit, et surtout les gens dont je n'ai aucunement besoin. » Il se leva, redressa sa taille, et ayant fait un léger signe de tête, il partit en brandissant sa canne d'un air dégagé. J'avoue que je n'ajoutais pas grande foi à toute cette histoire de Mexicaine. Elle fit même du tort à M. François dans mon esprit, et j'eus de nouveau la pensée qu'il me mystifiait. Mais dans quel but ? Oh, c'est un original, me répétais-je. Et pourtant, je ne pouvais le tenir pour un espion, malgré l'affirmation de mon ami Herzen. Ce qui me causait une grande surprise, c'est qu'aucun des nombreux passants qui traversaient le palais royal n'eut l'air de le reconnaître. Il est vrai que j'avais cru quelquefois m'apercevoir qu'il clignait de l'œil à quelques-uns, mais j'aurais pu me tromper. J'oubliais de dire que M. François ne sortait jamais le vin. Peut-être n'avait-il pas d'argent pour s'en procurer, mais non, il m'a toujours fait l'effet d'un homme sobre. Ni le lendemain, ni les jours suivants, il ne revint au lieu de notre rencontre. Et peu à peu, je cessai de penser à M. François. Peu de temps après, avant le 24 février 1848, je partis pour la Belgique, et ce fut à Bruxelles que j'appris la nouvelle révolution arrivée en France. Je me souviens que pendant tout un jour, personne n'avait reçu de lettres ni de journaux de Paris. Les habitants se pressaient dans les rues et les places, dévorés d'une attente anxieuse. Le 26 février, à 6 heures du matin, j'étais encore couché dans mon lit d'hôtel, mais sans dormir. Tout à coup, la porte s'ouvre à deux battants, et quelqu'un crie à tue-tête « La France est en République !» N'en croyant pas mes oreilles, je sautai de mon lit et me précipitai hors de la chambre. Un garçon d'hôtel courait dans le corridor et, ouvrant les portes à droite et à gauche, jetait par chacune d'elles sa foudroyante exclamation. Une demi-heure plus tard, j'étais vêtu, j'avais emballé mes effets et le chemin de fer m'emportait vers Paris. Les rails avaient été enlevés à la frontière. Mes compagnons de voyage et moi, nous eûmes grand-peine à gagner Douai en voiture de louage. Vers le soir, nous arrivâmes à Pontoise, mais pas plus loin, car les rails avaient été aussi enlevés, tout autour de Paris. Ce n'est pas le lieu de redire ici tout ce que j'ai entendu, vu, éprouvé durant ce voyage. Je me souviens seulement qu'à l'une des stations, une locomotive, traînant un seul wagon, passa devant nous avec un fracas épouvantable. C'était un train express qui emportait vers le nord le commissaire de la République, le citoyen Anthony Touret. Les gens qui l'accompagnaient agitaient les drapeaux tricolores, poussaient de grands cris, et les employés de la station, dans une stupeur silencieuse, suivait du regard l'énorme figure du commissaire penché hors de la portière, levant les bras d'un air d'autorité. Les années 1793 et 1794 me revinrent involontairement à la mémoire. Je me souviens encore que dans le même wagon où j'avais pris place se trouvait la très connue Madame Gordon, qui se mit tout à coup à nous faire un prêche sur la nécessité de recourir au prince. Le prince seul pouvait tout sauver. Le prince était l'homme désigné par le destin. D'abord, personne ne la comprenait. Mais lorsqu'enfin elle prononça le nom de Louis-Napoléon, tous se détournèrent d'elle comme d'une folle. Et pourtant, la parole que m'avait dite M. François sur le comte des Bonaparte me traversa l'esprit. Sa première prédiction s'était accomplie. Je me souviens qu'avant d'arriver à Pontoise, il y eut un choc entre notre train et un train qui venait en sens contraire. Il y eut des blessés, mais personne n'y fit la moindre attention. La seule pensée qui vint à chacun de nous fut celle-ci. Pourra-t-on continuer la route ? Dès que le train repartit, tous les voyageurs se mirent à pérorer de plus belle. Tous à l'exception d'un petit vieillard à cheveux blancs qui s'était blotti dans un coin du wagon de la station de Douai et qui ne cessait de répéter à voix basse « Tout est perdu, tout est perdu !» Je ne parlerai pas non plus des émotions qui m'assaillirent à mon entrée à Paris, en voyant des cocardes tricolores sur les chapeaux, les casquettes et jusque sur les enseignes, puis des hommes en blouse qui démolissaient les barricades, le fusil en bandoulière et au chant de la Marseillaise. Je passais toute cette journée comme dans un vertige. Le lendemain, selon mon habitude, je m'en allais déjeuner au Palais Royal. Je n'y rencontrai pas M. François. Mais je pus reconnaître que son pressentiment, quand il annonçait du sang versé dans le voisinage, s'était réalisé. On sait que le seul combat sérieux des journées de février a été livré sur la place du Palais Royal. Les jours suivants, je ne rencontrai pas davantage M. François. La première fois que je l'aperçus, ce fut le 17 mars, le jour même où une masse énorme d'ouvriers se rendit à l'hôtel de ville pour protester contre la manifestation connue sous le nom des « bonnets à poils ». Les bras ballants, les jambes écartées, il marchait à grands pas agiles au milieu de la foule, les reins ceints d'une écharpe rouge et portant une énorme cocarde rouge à sa coiffure. Nos regards se rencontrèrent, mais il ne fit pas mine de me reconnaître, quoiqu'il tournât de mon côté sa figure, comme pour me narguer. « Oui, c'est moi » semblait-il me dire. Il se remit à crier en ouvrant toute grande sa bouche sombre. Pour la seconde fois, je l'aperçus au théâtre. Rachel chantait la Marseillaise de sa voix sépulcrale. Il était au parterre, là où se tiennent d'habitude les claqueurs. Il ne criait point cette fois et n'applaudissait pas. Les bras croisés sur la poitrine, il regardait la chanteuse avec une attention farouche lorsque, s'enveloppant dans les plis du drapeau, elle appelait les citoyens à verser le sang impur. Je ne puis dire avec certitude que j'ai revu M. François au 15 mai, parmi les flots du peuple qui traversaient la place de la Madeleine pour envahir la Chambre des représentants. Je crois bien, cependant, avoir reconnu sa voix singulière, à la fois sourde et retentissante, parmi les cris de « Vive la Pologne !» Mais dans les premiers jours de juin, M. François surgit tout à coup devant moi, au même café du Palais Royal. Il me salua, il me tendit même la main, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, mais il ne s'assit pas à ma table, comme s'il eut honte de son habit, qui tombait réellement en lambeaux, et de son chapeau défoncé. Une sorte d'impatience inquiète semblait le dévorer. Ses joues s'étaient encore creusées, de légères convulsions couraient sur ses lèvres et sur tout son visage. Ses yeux rougis disparaissaient sous ses lunettes, qui ne cessait de fixer sur son nez avec toute sa main, comme pour se cacher. Je pus me convaincre cette fois de ce que je soupçonnais auparavant. Ses lunettes avaient de simples verres qui ne lui servaient à rien, si ce n'est d'une espèce de masque. L'anxiété triste, l'anxiété particulière aux vagabonds sans pain et sans abri, se lisait dans tout son être. L'aspect misérable de ce personnage énigmatique excitait mon étonnement. « Mais si c'est un agent, me disais-je, comment est-il si pauvre? Et s'il ne l'est pas, comment expliquer la vie qu'il mène ?» J'allais lui rappeler ses prédictions. « Oui, oui, murmura-t-il avec une hâte fiévreuse. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Mais vous, n'allez-vous pas retourner dans votre Russie? Resterez-vous encore ici? Et pourquoi ne resterai-je pas? C'est votre affaire, mais vous savez, nous allons bientôt vous faire la guerre. À nous? Oui, à vous, Russes. Il nous faudra de la gloire, beaucoup de gloire. La guerre avec la Russie est inévitable. Avec la Russie, mais pourquoi pas avec une autre nation? Non, non, avec la Russie. Vous êtes encore jeune, vous verrez cela. Quant à la République, il fit un signe tranchant avec la main. Elle est fichue. Les ateliers nationaux, s'écria-t-il avec une animation soudaine. Les ateliers nationaux. Y avez-vous été? Les avez-vous vus? Avez-vous vu comment, au parc Monceau, ils brouettent de la terre d'un endroit à un autre? C'est de là que tout viendra. Est-ce qu'il y aura de sang? Toute une mer de sang. Quelle situation! Tout prévoir et ne rien pouvoir, d'être rien, rien. Tout embrasser. Il écarta largement ses deux mains, montrant ses manches déchirées et pendantes. Il ne s'était pourtant pas défait de sa bague arborée. Elle se voyait toujours à son doigt. Tout embrasser. Et ne rien étreindre, rien. Pas même un morceau de pain. Nous étions à la veille du 5 juin. Les élections de demain, reprit-il précipitamment, comme pour ne pas s'arrêter à cette dernière pensée, sont aussi d'une grande importance. Monsieur François me désigna par leur nom les députés qui seraient certainement élus par les Parisiens. Il m'indiqua même le nombre approximatif de voix que chacun recueillerait. Parmi ces noms se trouvait celui de Cossinières, auquel M. François donnait la première place. « Malgré le 15 mai ?» demandai-je. M. François eut un sourire amer. « Oh, vous supposez que je le désigne parce qu'il était préfet de police ?» Louis-Napoléon se trouvait aussi dans sa liste. « Il sera la queue, » fit observer M. François, « mais c'est suffisant. Quand on monte à une échelle, il faut commencer par la dernière marche pour arriver à la première. » Le soir de ce même jour, je transmis à Herzen tous les noms et tous ces chiffres, et je me rappelle bien son étonnement lorsque le lendemain, les prédictions de M. François se réalisèrent mot pour mot. « Mais où diable prends-tu tous ces renseignements ?» me demanda Herzen plus d'une fois. Je finis par lui citer mon auteur. « Oh, cet être hybride !» Je reviens à notre conversation. Parmi les noms que l'on entendait le plus souvent répétés à cette époque était celui de Proudhon. Je le nommais aussi à M. François, car il était également sur sa liste. À la dernière place, il est vrai, ce qui se réalisa de même. Mais il se trouva que M. François n'y attribuait pas une grande importance, pas plus qu'à Lamartine et à Ledru-Rollin. Il parlait avec une sorte de dédain de tous ces personnages, ajoutant une nuance de compassion pour Lamartine et une nuance de colère pour Proudhon, ce sophiste en sabots. Quant à Ledru-Rollin, il se contenta de l'appeler ce gros bêta de Ledru. Il en revenait toujours aux ateliers nationaux. Du reste, toute notre causerie ne dura pas plus d'un quart d'heure. M. François se tint tout le temps debout, ne cessant de jeter autour de lui des regards inquiets, comme s'il attendait quelqu'un. Me rappelant sa cocarde rouge, je lui dis, entre autres choses, « Comme malgré tout, vous me semblez un républicain. Quel républicain ?» m'interrompit-il avec violence. « Où prenez-vous que je suis républicain ? C'est bon pour les épiciers. Eux seuls croient encore au principe de 89, au progrès, à la fraternité universelle. » Mais ici, M. François s'arrêta soudain. Je me retournai pour voir ce qu'il avait aperçu. Un vieillard en blouse avec une longue barbe blanche lui faisait des signes de la main. Il lui répondit de même, le rejoignit en courant, et tous deux disparurent. Depuis cette rencontre au café, je ne vis M. François qu'en trois circonstances. La première fois, je l'aperçus de loin dans le jardin du Luxembourg. Il se tenait debout à côté d'une jeune fille pauvrement mise. Elle semblait le supplier, tendait les mains et les portait à ses lèvres avec angoisse. Il écoutait d'un air sombre, et tout à coup, la repoussant brusquement du coude, il enfonça son chapeau sur ses yeux et partit, tandis qu'elle s'enfuyait éperdue d'un autre côté. Notre seconde rencontre fut plus significative. Elle eut lieu le 13 juin, le jour même où, sur la place de la Concorde, il se vit un rassemblement de bonapartistes que Lamartine signala à la tribune et qui fut promptement dispersé par la troupe de ligne. Et dans un des recoins formés par le mur du jardin des Tuileries, j'aperçus un homme vêtu d'un habit de bateleur qui, juché sur une charrette à deux roues, distribuait des brochures. J'en pris une. Elle contenait une biographie très louangeuse du prince Louis-Napoléon. J'avais souvent rencontré cet homme, un Breton, avec une énorme et épaisse chevelure relevée en l'air. Il vendait, sur les boulevards et dans les carrefours, des élixirs dentifrice, des pommades contre les rhumatismes et autres panacées. Pendant que je feuilletais la brochure, quelqu'un me poussa légèrement d'épaule. Je me retournai, c'était M. François. Il souriait de toute la largeur de sa bouche édentée. Il me regardait ironiquement par-dessus ses lunettes. « Voilà, voilà que ça commence !» dit-il enfin, en piétinant sur place et se frottant les mains. « Voici l'apôtre, précurseur. A-t-il le don de vous plaire ?»« Qui ça ?» m'écriai-je. « Ce charlatan chevelu, ce paillasse, mais vous vous moquez de moi ?»« Oui, oui, un charlatan, un paillasse, c'est précisément ce qu'il faut. » Des cheveux étranges, des bracelets au bras, un tricot avec des paillettes d'or. Voilà ce qui frappe l'imagination. La légende, mon bon monsieur, la légende est nécessaire. La réclame, la mise en scène, le miracle merveilleux. Les hommes commencent par s'étonner, puis ils vous respectent. Oui, oui, ils vous respectent, et ils finissent par croire. Quant à vous, souvenez-vous bien de ce que je vous dis. L'affaire sérieuse vient de commencer. Et quand nous aurons passé la mer Rouge... » À ce moment, un flot de peuple qui fuyait de la place de la Concorde, devant les baïonnettes des soldats, se jeta sur nous et nous sépara. Et ce fut pendant les terribles journées de juin que je le vis pour la dernière fois. Il était vêtu d'un uniforme de garde nationale, tenait son fusil, la pointe de la baïonnette en avant, et je ne saurais dire quelle froide cruauté exprimait son visage. Depuis lors, je n'ai plus rencontré M. François. Vers l'année 1850, j'eus à me rendre à l'église russe pour assister au mariage d'un de mes amis. Et tout à coup, oh, je ne sais pas pourquoi, il m'arriva de penser à M. François. Il me vint aussitôt à l'esprit que, puisque ses autres prophéties avaient frappé juste, il aurait pu être encore prophète cette fois-ci. Et, en effet, n'être plus de ce monde. Au reste, quelques années plus tard, je pus me convaincre avec certitude de sa mort. Derrière un comptoir de boutique, j'aperçus un jour une femme que, après quelques hésitations, je reconnus pour la jeune fille que j'avais vue dans le jardin du Luxembourg, pleurait si amèrement en compagnie de M. François. Je me décidai à lui rappeler cette scène. Dans le premier moment, elle resta tout interdite. Mais dès qu'elle eut compris de quoi il s'agissait, elle devint pâle, puis rougit, et me pria de ne pas la questionner davantage. « Dites-moi au moins, fis-je, ce monsieur est-il vivant ou mort ?» La jeune femme me regarda fixement. « Il est mort, dit-elle enfin, et de la mort qu'il méritait. C'était un méchant homme. Du reste, il était bien malheureux, bien malheureux. Je ne pus rien apprendre de plus. Et qui était M. François ? La question resta une énigme. Il y a de ces oiseaux de mer qui n'apparaissent que pendant la tempête. Les Anglais les nomment « stormy petrels ». Ils volent bas dans l'air troublé, en rasant de leurs ailes les crêtes des vagues furieuses, et disparaissent dès que le temps redevient serein.